Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Personne n'ose provoquer l'avenir. Faudrait être fou pour provoquer l'avenir.
Annie est née en 1940. Ses parents tiennent un café-épicerie dans une petite ville normande. La maison est modeste, on vit au rez-de-chaussée, au milieu des clients, dans le bistrot boutique. Il n'y a pas encore l'eau courante. Quand elle a 7 ans, Annie est envoyée à l'école privée, en centre-ville, chez les sœurs. Là, elle découvre qu'il existe un autre monde. La honte et les comparaisons commencent. Entre l'univers gras et vulgaire du café de ses parents et le monde raffiné des institutrices et des livres d'école. Annie travaille très bien. Première de la classe, c'est comme une revanche sur son origine sociale. Elle se met à détester le café épicerie, les patates et les conserves entassées derrière le comptoir, la vieille toile cirée fendillée, les parents qui crient, la clientèle minable, les mots de patois, les ongles toujours noirs. Annie s'éloigne. Elle part étudier à Rouen, elle retourne de moins en moins chez ses parents. Elle devient professeure de lettres, elle se marie avec un homme issu de la bourgeoisie. Elle s'appelle désormais Annie Ernaux. Elle est passée dans un autre monde, elle se met à écrire et toute son œuvre fouille cette déchirure. La sensation d'être une immigrée de l'intérieur, d'avoir abandonné et peut-être trahi son milieu d'origine. Aujourd'hui dans Les Pieds sur Terre, ce sont d'autres histoires de honte sociale, de transfuges qui n'ont pas voulu rester à leur place, de foulards Hermès et de mots qui blessent. Trois histoires racontées par Émilie Chaudet.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
La première fois que j'ai entendu parler de Jean-Pierre, c'était à Stein, c'était par l'un de ses élèves du lycée. Toufik m'avait raconté comment il avait laissé tomber le deal, comment il s'était mis à lire beaucoup, à fréquenter les musées et puis à vouloir poursuivre ses études. Et tout ça, c'était grâce à Jean-Pierre, son prof d'histoire.
Merci.
Alors un jour, je suis allée le voir, Jean-Pierre, pour un tout autre sujet de reportage, et puis il a commencé à me raconter son histoire.
Je m'appelle Jean-Pierre Aurière, donc j'ai 56 ans. Je suis professeur au lycée Paul-Éluard, donc de Saint-Denis, depuis maintenant 25 ans. Alors, j'ai grandi dans un petit village de l'Aveyron qui s'appelle Combes, un tout petit village, avec donc un petit frère et une petite sœur et les parents de ma mère. Donc, on vivait dans une maison que mon grand-père avait bâtie. Et puis, dans cette maison-là, il y avait une épicerie et c'était mes grands-parents donc, qui tenaient cette épicerie. Et puis, mon père était mineur. Donc, il a commencé à travailler à l'âge de 14 ans et il a été mineur jusqu'à l'âge de 37 ans, je crois. Donc, il a fait 22 ou 23 ans de mineur de fond. Et puis après, mon père a continué sa vie professionnelle en étant ouvrier métallurgiste. Donc il était plus mineur, mais enfin, il a été ouvrier toute sa vie. Et en même temps, il aidait aussi son beau-père, c'est-à-dire mon grand-père, à l'épicerie. Donc c'est quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup travaillé. Ce qu'il me disait du mineur, et ce qu'il m'a toujours dit, c'est il ne faut jamais que tu fasses ce métier-là. Non pas qu'il ait honte de ce qu'il faisait, mais il disait c'est trop dur et c'est dangereux. Et il a tout fait pour que je fasse des études. Parce que mon père ne voulait absolument pas que je sois comme lui. Et donc très tôt, j'ai compris que l'école, c'était la seule voie pour sortir d'une condition. Quand j'étais au lycée et au collège, je suis le seul de ma famille, je suis le fils aîné, à avoir été dans une école religieuse, dans un pensionnat en fait. Et donc c'était payant, bien sûr. Et c'était assez cher. Comme je travaillais bien, je crois que les prêtres, ils avaient fait un rabais à mes parents. Donc là, il y avait une faveur. Il y avait une faveur parce que c'était un pensionnat catholique, c'est les frères maristes. Et donc je pense que dans leur idée, effectivement, il fallait qu'ils aient aussi un peu leurs pauvres. Donc ils devaient avoir une catégorie, je ne sais pas, de gens méritants. Parce que voilà, j'étais à leurs yeux quelqu'un de méritant. Et donc ils avaient fait une fleur à mes parents. Et en fait, à une époque, j'étais délégué de classe. Et comme on était là toute la semaine, on n'avait pas droit aux douches. Et donc, ils nous avaient dit, mais non, mais vous rentrez chez vous le week-end, vous pouvez vous laver une fois par semaine, c'est bon. Et on ne se lavait pas, ou juste le matin, c'est-à-dire on lavait un robinet avec de l'eau froide, et puis on se lavait le visage, c'est tout. Et donc là, voilà, on avait fait pression un petit peu, et ça, on avait même écrit une lettre aux mères, enfin, ça avait fait un peu de bazar. Hein. Et ça, ils n'étaient pas habitués à ce genre de choses. Et donc ça, ils l'ont mal pris. Et en fait, ils m'ont dit, devant tout le monde, voilà, vous mettez le bazar, mais vous êtes là parce que finalement vos parents ne payent rien. Vous êtes là par l'effet de notre grâce et devant tout le monde. Mes camarades ont compris l'allusion et voilà, ils savaient que voilà, moi j'étais un élève peut-être au rabais. Et j'ai eu l'impression, encore maintenant, comme un fer rouge qu'on m'avait mis sur la peau. C'est-à-dire, c'est cuisant, voilà, le mot c'était cuisant. J'avais l'impression qu'on m'avait tamponné quelque chose sur le front, quoi. C'est de l'humiliation, c'est de l'humiliation. Là, je l'ai ressenti parce qu'ils ont touché là où ça faisait mal. Et je trouve ça, entre guillemets, pas très chrétien, ce genre de choses. Quand j'en ai parlé au prêtre, parce qu'après on en a rediscuté tout ça, il m'a dit, voilà, vos parents ne sont pas capables de payer la totalité de la pension et tout ça, une école bon, prestigieuse et tout ça, et en plus, vous êtes ingrat. Et ça, cette injustice-là, liée au statut social, ça m'est resté profondément. Quand on vous déstabilise comme ça, en disant, voilà, vos parents n'ont pas d'argent, après, pour se dire, est-ce qu'on est légitime pour faire des études, c'est quand même compliqué. Il y avait une chose aussi auquel je ressentais une certaine différence, c'est que mes parents eux-mêmes, par rapport aux autres parents d'élèves qui étaient dans certains milieux, ils ne sont jamais venus aux réunions parents-professeurs. Je pense qu'ils n'osaient pas venir en fait. Ils n'osaient pas venir avec les autres parents et tout ça. Et là, je le vivais difficilement parce que je voyais cette cour qui était remplie de parents d'élèves avec leurs enfants, donc mes camarades, et moi j'étais tout seul. Et donc, je leur en voulais parce que j'avais honte d'eux. Voilà, j'avais honte de mes parents, honte du... C'est affreux de dire ça maintenant, hein, mais honte du métier que faisait mon père. J'aurais aimé que mon père, je sais pas, soit avocat, ou comme mon oncle, par exemple. Et ma mère, elle a toujours été dans sa cuisine, à faire manger, à passer son balai. Mais ma mère, dès l'âge de 40 ans, elle a perdu ses dents, et elle n'avait pas les moyens d'aller chez le dentiste. Donc moi, j'ai vu ma mère... À un âge où une femme, quand même, à 40 ans, elle, je sais pas, elle peut resplendir, elle n'avait pas de sourire. Et ça, j'avais honte de ça. Et à la limite, des fois, je me disais, bon, il vaut mieux pas qu'elle aille à des trucs avec des copains, que mes camarades voient ça, quoi. Et voilà, j'aurais aimé avoir une mère qui soit plus belle avec un beau sourire. Donc ça c'est dur à dire, parce qu'à l'époque, c'était très douloureux. Quand on est adolescent, c'est quand même assez violent, ce genre de choses. C'est quand même assez violent se dire, ben finalement, mes parents, ils sont pas à la hauteur, quoi. Parce que franchement, je pourrais les amener nulle part, ils sont insortables, ou etc. Il faut qu'ils restent dans leur milieu avec leurs copains, et puis leur Ricard, et puis c'est tout, quoi. Mon père, quand j'ai eu mon bac, il était très content. Il avait fait mettre un petit entrefilet dans le journal local, parce que j'avais eu mon bac. Donc, je pense que pour lui, sa revanche, finalement, c'est ses enfants. Et donc, j'ai eu mon bac, je me suis inscrit en droit, et puis je suis arrivé à Sciences Po à Toulouse, donc un pied à l'université, et où là, j'ai découvert, alors là, un monde complètement différent du mien. C'est-à-dire, effectivement, il n'y a pas de fils d'ouvrier, hein, pour le coup. Je crois que je devais être le seul. Je me sentais complètement en décalage. Moi, j'avais des camarades qui venaient à Sciences Po en cravate. C'est des trucs pour moi qui étaient inimaginables, ce genre de choses-là. Moi, je ne pouvais pas changer de vêtements une fois par jour, quoi. Ça, c'était pas possible. Ou avoir un costume ou des choses comme ça. Et puis, il y avait des regards ou des choses quand je parlais, par exemple, avec cet accent, ça faisait rire un petit peu. Et du coup, moi, ça me bloquait complètement. Et donc, je n'osais pas m'exprimer en public. Je me suis dit, mais je vais peut-être pas y arriver, je ne suis pas comme eux, je ne parle pas comme eux, tout ça. Voilà, effectivement, je voyais bien qu'il y avait une différence sociale, ça c'est évident. Et puis, peu à peu, j'intégrais ces manières d'être. J'intégrais le fait de lire beaucoup de choses, d'acheter le journal Le Monde, enfin, des codes, un petit peu, d'une autre façon de vivre, qui finalement me correspondaient bien. Hein. Et donc forcément, en intégrant ces codes, je m'apercevais combien je m'éloignais des codes de mon enfance. Et quand j'étais après chez mes parents, des fois, je m'ennuyais. Et donc, on parlait, du jardin, du potager, des poules, du machin, de la pluie, du beau temps. Mais après, je me suis dit, oh là là, mais ils n'ont pas de conversation. Ils n'ont rien, je ne peux pas leur parler du dernier bouquin ou du dernier film qu'ils ont vu. Hein, parce que bon, voilà, mes parents ont été, la dernière fois qu'ils ont été au cinéma, c'était en 1958. Alors, après, c'est fini. Donc, c'était horrible. Et à un moment, je me suis dit, mais je suis en train de trahir mes parents, donc ça me faisait du mal. Et donc, encore une fois, je savais pas où j'étais, en fait. Pas accepté dans ce milieu-là, encore d'étudiant, hein, éloigné du milieu de mes parents d'origine. Donc, vraiment seul, là. Et ben moi, j'étais pas bien dans la vie, là. À cette époque-là, c'était compliqué. Donc, je me suis jeté à corps perdu dans les études. Je pense maintenant que ce que j'ai subi là, quand j'étais adolescent, je comprends très bien la situation de mes élèves de banlieue quand ils ressentent ou l'injustice ou le fait qu'ils se sentent inférieurs par rapport à d'autres. Ça, j'allais dire, sans avoir les mots, je saisis quand il y a un élève qui connaît cette situation, un petit peu de détresse ou tout ça. Eh bien, je m'aperçois qu'il y a quelque chose, une sympathie qui passe, une compréhension muette qui passe. Ils peuvent savoir qu'avec moi, ils peuvent tout me dire et que je peux effectivement les comprendre et les aider. D'ailleurs, plus tard que cet après-midi, j'étais avec un de mes anciens élèves qui est en terminale maintenant, qui a des difficultés. On a discuté autour d'un café. J'ai essayé de le remobiliser parce qu'il me dit « mais j'y arriverai pas, et je suis de la cité, c'est trop compliqué pour moi ». Et ça, ça résonne en moi, ça. Je sais ce que c'est tout ça. Et j'ai essayé de lui donner des armes un petit peu, de lui dire « non, tu as de la valeur, hein, donc c'est à toi, il faut d'abord s'appuyer sur toi, il faut que tu te remobilises ». Ces gamins, ils sont pas armés pour affronter ça. Parce que, bon, alors, évidemment, ils vivent souvent entre soi, et puis dès qu'ils passent de périph' et ils travaillent un petit peu à l'extérieur, souvent, ils décrochent. Vous savez qu'ils font des prépas parisiennes, par exemple, la première année, ça y est, ils décrochent. Non pas parce qu'il y a beaucoup de travail, mais parce qu'il y a un tel fossé culturel que c'est pas possible. On ne peut plus aller en cours. Ça veut dire, mais comment ? Mais tu connais pas le dernier machin de truc au cinéma, ou voilà, et le dernier bouquin de truc et tout ça. Et puis moi, je suis parti avec mes parents à Los Angeles, et puis... Et qu'est-ce qu'ils ont à dire ? Rien. Et moi, pour l'avoir ressenti, je suis en empathie avec eux. Et je pense que, au moins, je sais que j'ai une utilité. Voilà. Il y a un sens à ma vie.
France Culture, les pieds sur terre.
Quand je suis sortie de chez Jean-Pierre, je suis tout de suite rentrée chez moi. J'avais besoin de repenser à tout ce qu'il venait de me dire, à pourquoi ses mots, le mal-être de sa jeunesse, ses regrets, pourquoi tout ça me touchait autant. Pourquoi est-ce que je me sentais aussi proche de lui à ce moment-là ? Alors je me posais cette question et bien sûr j'avais déjà la réponse parce que ce qu'il a vécu, cette sensation de ne pas être comme tout le monde et de ne pas pouvoir faire illusion, eh ben, je l'ai vécu dès toute petite à la sortie de l'école, une école privée catholique. Il y avait cette distance vis-à-vis de mon frère et de moi qui ne passions pas tous nos week-ends avec les scouts comme la plupart de nos camarades. Et puis il y a eu des mots et des attitudes un peu maladroites sur ma mère qui venait nous chercher. Alors ce sont des souvenirs d'enfants et peut-être des souvenirs déformés. Et du coup, je me suis dit qu'il fallait que j'aille voir ma mère.
Oui. Salut, ça va ?
Salut. Ça va ?
Bon, allez, moi j'y arrive pas. Oui.
J'ai vécu en Tunisie 18 ans, en fin de compte, et j'ai 60 ans. Je suis plus le cœur français que tunisien, parce que la Tunisie, c'est mes racines, mais c'est pas là-bas que je vivrai. Et tout ce que j'ai, tout ce que j'aime, c'est là. J'ai ma famille. Mais
ma mère, c'est la dernière d'une famille de 8 enfants. Et à la fin de ses études, elle passe un mois de vacances en France. Et puis en France, elle rencontre mon père. Alors, elle y reste 40 ans de plus.
C'est ce qu'il me dit toujours, mon fils, il me dit « tu es plus française qu'elle est française ». Parce que
pour aller vite, elle obtient la nationalité française et elle se marie dans la foulée. Son objectif numéro un, c'est l'intégration parfaite. Ne fréquenter que des Français, ne parler que français, nous faire étudier mon frère et moi dans une institution catholique, privée, aller au catéchisme. Rien ne devait transparaître d'une quelconque double culture. Parce que dans son vécu, et selon elle, dans la perception de quelques personnes, ses origines étrangères créaient des préjugés et accentuaient un fossé social.
Et vraiment à cette époque, à la sortie de l'école, j'étais la seule d'origine étrangère. C'est-à-dire l'intégration s'est faite parce que c'est moi que je m'avançais vers les gens. Et les réunions des parents d'élèves, j'étais toujours là. Et j'étais toujours partante pour être déléguée de classe. Et je me suis vraiment investie dans l'école et tout ce qui est autour, à part que je donne pas de catéchisme. Je faisais les ventes de charité, on faisait les gâteaux pour la fin de l'année, je faisais partie des sorties des enfants de l'école. J'étais vraiment investie. Et un jour, une dame de l'école, elle me fait « Oh, vous êtes toujours impeccable. Ce rouge à lèvres, c'est de Saint-Laurent ?» Je dis « Non, c'est de Monoprix. » Il y a d'autres jours, elle me dit, je ne sais pas comment vous faites votre foulard Hermès, vous le faites divinement bien. Ah bon? Parce que je le noue différemment autour du cou. Et alors, c'était chaque fois une petite réflexion comme ça. Et un jour, j'ai jamais été chez cette personne et elle me dit, ah, j'ai un dîner ce soir. Est-ce que tu peux venir chez moi? Parce que j'ai du monde ce soir, je voudrais faire un couscous. Est-ce que tu pouvais venir m'aider? Ben non, je fais pas. Moi, je fais pas de couscous. Voilà. Et j'ai des amis aussi de l'école, quand on est resté amis ensemble et on s'entraidait de tout pour garder les enfants l'une ou l'autre. Et voilà, nos enfants, ils ont grandi, on est toujours amis. Et un jour, on m'invite à Nice. C'est un appartement de fonction, superbe appartement de presque 300 mètres carrés. C'est quelque chose d'énorme et il appartient aux fonctionnaires. Et c'est des gens très simples et malgré sa fonction. Et voilà qu'on était dans cet appartement. Le fils de mes amis, que je considère aussi comme mon fils, il est arrivé avec... deux garçons et trois filles, et ses amis. On était en train de discuter, boire notre thé, on était en pyjama. Il y en a une fille de ce groupe-là, elle rentre, elle me regarde, elle me dit « Vous pouvez me faire un thé ?» Alors, d'un seul coup, la jeune fille que je suis en train de discuter, qu'elle me connaissait très bien, que je suis la mère de famille, elle lui dit « Mais tu peux pas le faire toute seule, qu'est-ce que tu fais là ?» Elle lui dit, mais elle est là, elle va le faire le thé. Avec le revers de la main, c'est-à-dire, allez. Et elle lui dit, tu sais que c'est l'amie de la maman de Clément. Ah, moi je savais pas, hein, je savais pas. Et elle s'est même pas excusée. Hein. Voilà, ça m'a fait de la peine là. Ça te renvoie toujours à ta condition de femme du Maghreb, de couscous, du thé, du... voilà. C'est-à-dire, tu dois toujours rappeler que je suis française, tout court. Tu vois, maintenant, j'ai 60 ans, c'est du passé. Il faut avancer. Voilà.
Pas de soucis. Aucun problème, ma chérie. Aucun.
Merci. C'est très gentil d'avoir parlé.
Merci, ma chérie.
Je savais que les mots de ma mère sauraient préciser ces souvenirs vagues de mon enfance. Et j'ai aussi le souvenir que j'ai jamais eu honte d'elle dans ces moments-là. Je me dis que elle a dû avoir honte, en revanche. Sinon, pourquoi est-ce qu'elle aurait cherché à vivre et à nous éduquer, mon frère et moi, hors de nos origines? Mais bon, là, c'est un autre problème. La honte, c'est plutôt l'histoire de Didier, qui a fui son milieu d'origine pour atterrir dans le Paris intello des années 70.
Je suis Didier Ribon, je suis professeur de sciences sociales à l'Université d'Amiens. J'ai grandi dans un milieu très pauvre, c'était la classe ouvrière des années 50 et 60, et à Reims, dans des quartiers un peu délabrés, sinistres, gris, et mon père, quand j'étais enfant, était manœuvre, et ma mère, femme de ménage, Et nous vivions, mes parents, mon frère aîné et moi, dans un tout petit appartement, démuni de tout. Et donc, ma fuite vers Paris a été une fuite compliquée parce que je me suis installé à Paris tout en étant toujours étudiant à l'université de Reims. Et c'est-à-dire que je faisais le voyage aller-retour pour aller suivre de temps en temps des cours. Et c'est après ma maîtrise que je me suis inscrit pour passer l'agrégation à l'université de Paris 1, à la Sorbonne, et avec l'illusion que j'accédais au plus haut temple de l'intellectualité. Quand je me suis installé à Paris, je voyais ma grand-mère et son compagnon, que j'appelais mon grand-père. Ils habitaient un quartier très populaire qui était le quartier Barbès, et minuscule appartement. Et j'allais tous les dimanches déjeuner chez eux. Comme je n'avais pas beaucoup d'argent à l'époque, j'étais bien content d'aller déjeuner chez eux. Et donc mon grand-père exerçait comme métier laveur de carreaux. Il allait dans des banques, dans une entreprise. Donc il avait une mobilette où il se promenait dans Paris avec l'échelle de bois, les seaux et des serpillères avec lesquels il nettoyait les vitres. Et c'était un étrange personnage comme ça. Il était habillé en bleu de travail, il avait, je crois, une canadienne. Et il avait sa face rougeaude parce que le vent de la mobilette, et puis il faut bien dire qu'il n'hésitait pas à abuser dès le matin du petit calva avec le café, et puis le midi aussi, et puis etc. Et donc mon grand-père était quelqu'un qui avait été, je crois, membre du Parti communiste assez longtemps, qui avait cette culture politique, et donc il savait beaucoup de choses. Il était assez fascinant, il parlait très bien, beaucoup. On s'entendait très bien, je l'aimais beaucoup. Mais très vite, comme je m'éloignais de ma famille, de ma mère et de mon père, je me suis éloigné de ma grand-mère et de mon grand-père. Et à la fois, je les aimais beaucoup. Et en même temps, je n'aurais pas voulu qu'on me voie dans la rue avec eux. Et je ne voulais plus appartenir à ce monde-là. Je voulais être autre chose. Je voulais changer. Je voulais quitter ce milieu. Et donc, pour le quitter, il faut ne plus le voir. Et malgré tout, on continue parce qu'il y a des messages sur le répondeur de ma grand-mère qui me disaient « mais tu ne viens plus nous voir », etc. Donc il y avait toute cette contradiction en moi qui était liée au fait que j'aimais bien ma grand-mère, j'aimais beaucoup mon grand-père, mais elle représentait le milieu auquel précisément je ne voulais plus appartenir. À l'époque, je travaillais au Nouvel Observateur comme critique littéraire. Et donc, un jour, allant au Nouvel Observateur, je vois mon grand-père sur sa mobilette passer dans la rue, m'apercevoir et s'arrêter. Et il me dit « Didier, Didier », comme ça. Je ne pouvais pas faire comme si je ne l'avais pas vu. Donc, je suis allé lui parler quelques instants. Il était très content de me voir. Moi, j'étais terrorisé, tétanisé à l'idée qu'on puisse me voir en train de parler avec lui, parce que tout ce qu'il était, comme ça, avec ses instruments de travail, représentait pour moi quelque chose avec quoi je ne pouvais pas être associé. Et là, je me souviens de tout le poids de la honte sociale qui pesait sur mes épaules. Et donc, j'ai trouvé une excuse. Excuse-moi, il faut que je te laisse, je suis très pressé et tout ça. Et après, cette scène m'a hanté pendant des années, jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs, comme un des actes, un des gestes de ma vie dont j'ai le plus honte aujourd'hui, qui est d'avoir eu honte de mon grand-père. Et je me dis, mais si il vivait toujours, si je le croisais dans la rue aujourd'hui, peut-être je serais moins stupide qu'à l'époque, mais je pense que j'aurais quand même un sentiment comme ça, un peu de gêne. J'ai honte de ma famille. Et le fait que mon frère aîné soit devenu apprenti boucher, c'était quelque chose que je taisais quand on me demandait « que fait ton frère aîné ?» Je disais « oh, je ne sais pas ce qu'il fait, je ne l'ai pas vu depuis longtemps, je savais parfaitement, mais je ne pouvais pas dire « mon frère est boucher ». Je déjouais les questions, je ne répondais pas, je détournais.
Vous avez peur d'être démasqué ?
Oui, et en plus démasqué par des gens que ça n'aurait pas gêné. Le monde social fonctionne en nous et la violence sociale fonctionne en nous. Il faut faire ça, il faut être comme ça. C'est soi-même, on s'impose des comportements. Il suffirait de dire, je vois tout ça balader et je suis libre et je suis un fils, le fils d'un ouvrier, d'une femme de ménage. Mon grand-père lavait les carreaux pour se libérer de cette violence du monde social.
Aujourd'hui encore, c'était Les Pieds sur Terre avec Delphine Saltel et une émission d'Émilie Chaudet réalisée par Emmanuel Geoffroy et diffusée pour la première fois le 30 novembre 2015 à une époque où Delphine Saltel me remplaçait. J'avais cette chance. Sandrine Chaperon, c'est l'attachée de production des Pieds sur Terre et Céline Autain, c'est notre stagiaire.